Retour à questions d'actualité sur les ondes de Radio VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Le marché du nord-est états-unien, on reste aux États-Unis, est d'une importance capitale pour le Québec. Avec ses millions de consommateurs et ses multiples industries, il offre de savoureux et juteux débouchés. C'est le cas notamment pour Hydro-Québec, qui attend à l'heure actuelle des feux verts de différents paliers d'autorité pour pouvoir exporter son électricité vers la Nouvelle-Angleterre. Jean-François Thibault, ingénieur et commentateur de l'actualité du secteur énergétique, nous en parle. Jean-François, bonjour.
Bonjour Jean-Philippe, comment allez-vous?
Je vais bien, je vous souhaite... Vous aussi ça va bien, j'espère?
Oui, ça va très bien.
Alors, acceptez mes voeux de bonne année.
Oui, bonne année également, c'est vrai, on a encore le droit, je crois.
Jusqu'au 31, et si on n'a pas le droit, on saisira la Cour suprême pour voir si on a le droit le 1er février de se souhaiter bonne année. Et alors, le Québec attend des feux verts pour pouvoir exporter son électricité donc en Nouvelle-Angleterre, c'est bien ça?
Oui, exactement. Alors, finalement, ça fait déjà plusieurs années qu'Hydro-Québec, finalement, est intéressé à exporter son hydroélectricité dans le nord-est des États-Unis, plus particulièrement en Nouvelle-Angleterre. Il y a également New York qui fait partie, si on veut, qui est dans la mire là, d'Hydro-Québec.
Ouais, ouais.
Et donc, il y a différents projets qui ont été promus ces dernières années, dont notamment le défunt Northern Pass, qui finalement avait été, qui s'est passé au travers de l'État du New Hampshire et qui avait dû être abandonné parce que finalement, finalement Hydro-Québec s'était retrouvé face à, si on veut, en fait, ils avaient un partenaire américain, je crois que c'était EcoSource à l'époque, et qui avait dû rebrousser chemin, bref, concernant la promotion de ce projet-là. Alors, c'est une issue différente qu'a connue le New England Clean Energy Connect, promu par le partenaire d'Hydro-Québec aux États-Unis qui s'appelle Avangrid.
Jean-François, je vous interromps une seconde.
Oui.
Les projets de partenariat hydroélectrique transfrontaliers n'ont pas le même problème d'acceptabilité sociale que ceux d'oléoduc, par exemple, où le pétrole est vendu comme quelque chose de sale, d'horrible, de polluant, de méchant, de mortel. Je veux dire, là, on nage en pleine vertu avec Hydro-Québec, non?
C'est vrai, mais sauf qu'il ne faut pas sous-estimer, le fait qu'Hydro-Québec, finalement, est perçu, notamment par quelques agents économiques aux États-Unis, comme étant capable, si on veut, d'inonder là, le nord-est des États-Unis avec de l'hydroélectricité. Mais c'est que l'hydroélectricité québécoise, elle est pas chère. Alors ça, c'est un argument qui est intéressant du point de vue des citoyens ou des consommateurs d'énergie, si vous voulez. Mm-hmm. Mais du point de vue, si on veut dire, des gens qui ont une approche un peu plus protectionniste, c'est certain qu'on se dit, ben Hydro-Québec est une entreprise étrangère, faut se le rappeler. Et donc, ils peuvent voir ça comme étant, une question, ils peuvent se dire, ben pourquoi est-ce qu'on achèterait de l'énergie des étrangers plutôt que d'être en mesure de développer une capacité de production locale aux États-Unis. Mm-hmm. Donc,
Ma dernière question, Jean-François, puis on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que les autochtones peuvent constituer un obstacle? Vous savez, les pylônes qui passent sur la Terre et tout ça, des traités ancestraux, est-ce que ça, c'est ce qu'Hydro-Québec est concerné par ça pour exporter son hydroélectricité en Nouvelle-Angleterre?
Oui, je crois que, si je ne m'abuse, la ligne du côté du Québec traverse les territoires Mohawk et Huron-Wendat, notamment.
Ouais, ouais.
Donc, écoutez, ça serait vraiment à vérifier. Là. Je vais vous dire que vous me prenez un peu de cours avec cette question-là. Mm-hmm. Mais il est vrai que les questions autochtones, dans les cas de construction d'infrastructures énergétiques, sont fréquemment soulevées.
C'est ça ma question.
Oui, bien sûr. Elles ont été effectivement soulevées dans le cas qui nous concerne ici.
Alors, le cas dont on parle, c'est le New England Clean Energy Connect. Donc, il s'agit de transporter de l'hydroélectricité québécoise en Nouvelle-Angleterre. Combien d'électricité et où précisément?
Alors, c'est un projet qui cherche à acheminer 1200 MW d'électricité du Québec vers la Nouvelle-Angleterre.
Ouais.
Alors, on partirait du Québec, d'un poste qui serait près de la ville de Thetford Mines,
ouais,
et qui se rendrait jusque dans la région de Lewiston, dans le Maine. Mm-hmm. Alors, on veut y construire une ligne Du côté américain, ce serait une ligne qui ferait environ 233 km, une ligne de transmission à 320 kV à courant continu, et donc qui se rendrait jusqu'à un nouveau poste, si vous voulez, une nouvelle station de conversion qui se situerait là-bas. Dans le Maine, et ensuite de ça, il y aurait également la modernisation, si vous voulez, d'environ 80 km de lignes qui sont existantes à courant alternatif, la construction d'une nouvelle sous-station et bon, également la mise à niveau de différentes parties du système électrique là, pour permettre à tout ça de fonctionner. Donc, c'est des travaux quand même importants. N'empêche, les travaux normalement débuteraient du côté américain en 2021, et la mise en service est prévue pour 2022. Alors, c'est des travaux qui sont ambitieux, mais qui, en même temps, prendront pas des lustres. Alors, contrairement à d'autres types de travaux d'ingénierie, ce qu'on constate, c'est que finalement, la construction de ça devrait pas prendre des lustres. Alors, on est en droit de s'attendre à des résultats concrets de la part de ce projet-là d'ici quand même, en fait, au cours des prochaines années, voire même des prochains mois, là.
Avec les démocrates, Jean-François Thibault, qui s'apprêtent à diriger le pays, les États-Unis, je veux dire, il y a une volonté politique évidemment manifeste pour ce genre de projet-là. Mais ils vont pas dire non, à moins qu'ils soient protectionnistes pour certaines valeurs, je ne sais pas, mais
c'est ça. C'est-à-dire que la question du protectionnisme aurait pu être soulevée. Mais ça demeure, comment dire, c'est une question qui demeurait hypothétique. La réalité, c'est que le permis présidentiel a été octroyé pour la portion américaine
Déjà.
Du projet. Oui, donc le NESEC a déjà reçu le permis présidentiel. C'était la dernière étape du processus réglementaire aux États-Unis pour permettre la construction. Donc la construction peut commencer d'ores et déjà, et c'est ce qui arrivera au cours des prochains mois et ça se poursuivra jusqu'en 2022.
Alors, je disais en introduction qu'il y a quand même plusieurs feux verts. Il ne s'agit pas d'avoir quelqu'un aux États-Unis et quelqu'un au Québec qui nous dise « Nihil obstat, on n'a aucune objection à ce qu'on imprime votre ouvrage ou à ce qu'on on aille de l'avant avec votre projet ». Il y a plusieurs paliers, non, plusieurs freins possibles, il y a plusieurs obstacles possibles.
Ben, du côté américain, l'ensemble du processus réglementaire est arrivé à échéance et toutes les approbations réglementaires, finalement, ont été reçues. Et donc, du côté américain, la construction peut bel et bien commencer. Par contre, si on vient du côté du Canada, parce que bon, si on veut exporter de l'hydroélectricité québécoise vers les États-Unis, ben on se comprend qu'il doit y avoir une portion québécoise au projet. Et donc, il y a si vous voulez, on doit finalement. Il y a deux fils qui doivent être connectés ensemble, du côté américain d'une part et du côté canadien, pour qu'on puisse acheminer de l'énergie d'un côté vers l'autre. Alors là, spontanément, on va se dire. En fait, c'est que quand j'ai vu la nouvelle, je me suis dit, ah, il y a probablement des gens qui vont penser que Hydro-Québec pourra, dès que la construction sera terminée du NESEC, exporter de l'énergie aux États-Unis ou vers la Nouvelle-Angleterre. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la portion québécoise, elle, n'a pas complété l'ensemble du processus réglementaire. Donc, qui devrait être complétée au cours des prochains mois. Et si tout va bien, là, effectivement, la construction commencera également du côté du Québec et on pourra faire en sorte que l'ensemble du projet, si vous voulez, sur les deux territoires, États-Unis-Canada, soit complété dans leur entièreté.
Je vous arrête une seconde, Jean-François Thibault. C'est quand même étonnant, c'est Hydro-Québec qui veut exporter, sauf que tous les permis ont été déjà émis, le décret présidentiel également du côté états-unien et du côté de Québec, on traîne.
Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est vrai que ça paraît paradoxal dans un certain sens qu'un projet qui profite autant et qui est soutenu d'ailleurs ouvertement par le gouvernement du Québec depuis belle lurette, en fait, M. Legault a fait de l'exportation de notre hydroélectricité québécoise aux États-Unis finalement un des fers de lance de son programme environnemental. Alors, on trouverait. C'est certain qu'il y a quelque chose de cocasse dans le fait. Que les autorisations réglementaires soient pas aient pas été obtenues ici avant les États-Unis. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que les autorisations ont commencé aux États-Unis en 2017, alors qu'ici, elles n'ont commencé qu'en 2018.
Alors,
alors, aux États-Unis, ça a commencé avant, mais ça suit quand même une certaine logique, puisque Hydro-Québec avait déjà, avec l'expérience de Northern Pass, si vous voulez, un précédent qui lui faisait se dire probablement, bon, il est peut-être préférable d'amorcer les autorisations réglementaires du côté américain avant le côté canadien, puisque finalement, il y a un impondérable supplémentaire. C'est là
Ah
qu'on
oui.
pourrait, en fait, c'est là où il y avait davantage de risques du point de vue, du point de vue réglementaire. Donc, comment dire, je trouve que c'est quand même logique qu'Avangrid s'il soit pris davantage à l'avance qu'Hydro-Québec
Il nous
pour
reste
entamer.
une petite dizaine de minutes. Alors, il y a le Québec et le fédéral aussi. Donc, à quelle porte est-ce qu'il faut frapper pour avoir des feux verts pour aller de l'avant avec ce projet d'exportation d'électricité en Nouvelle-Angleterre?
Oui, OK, ben allons-y par étapes. Vous avez raison de le mentionner. Il y a les instances d'autorisation, si vous voulez, ou d'évaluation québécois et canadiens qui s'appliquent.
Oui.
D'abord au Québec, le Bureau d'audience publique sur l'environnement, le BAP, a remis en novembre dernier son rapport d'enquête et d'audience publique en ce qui concerne le projet. En bref, là, ce qu'on constate, c'est que le projet est jugé acceptable sur le plan de l'environnement naturel et humain. Il y a des petites recommandations qui ont été faites par-ci par-là, mais rien pour remettre en question là, la vitalité du projet, si on veut. Donc, l'étape donc du processus d'audience publique est terminée. Ce qu'il reste sur le plan provincial, il y a une analyse environnementale qui doit être faite par le ministère de l'Environnement. Puis, suite à cette analyse-là, il y a un rapport qui doit être remis au ministre de l'Environnement. Donc, le
Qui
ministre de
lui dira
l'Environnement,
où? OK.
le ministre de
Pardon.
l'Environnement, finalement, il reçoit le rapport du BAP, il reçoit un rapport de son ministère, et ensuite de ça, ce qu'il doit faire, c'est une recommandation au Conseil des ministres qui, lui, doit donner l'autorisation au projet, finalement, d'aller de l'avant ou pas.
Et qu'est-ce qui se passe du côté de la Régie de l'énergie du Québec et la Commission de protection du territoire agricole du Québec? Est-ce que eux, ils se situent où dans le dans la, la dans la chaîne?
Ah, c'est que la Régie de l'énergie, c'est une instance réglementaire qui est là pour finalement. C'est une instance réglementaire qui est là pour autoriser Hydro-Québec, TransÉnergie notamment, de construire de nouvelles infrastructures et de finalement ajuster le tarif hydroélectrique de transport en fonction des infrastructures qui sont existantes. Donc, puisque le tarif normalement suit. Si vous voulez, la construction et les coûts d'entretien, etc., des infrastructures de transport, avant de construire des infrastructures de transport, Hydro-Québec se devait d'aller chercher un permis ou une autorisation, si vous voulez, de la Régie de l'énergie du Québec.
Et il l'a.
Pardon, oui, elle l'a, exactement. Elle l'a
Elle l'a, d'accord.
obtenue,
Bon,
effectivement.
d'accord. Et la Commission de protection du territoire agricole du Québec a eu son mot à dire aussi ou pas?
Oui, je sais qu'il devait y avoir une approbation reçue et que Hydro-Québec a effectivement reçu de la part de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec. Je ne connais pas les détails de ça. C'était une nouveauté pour moi quand j'ai fait mes recherches sur le sujet.
Oui.
Mais effectivement, Hydro-Québec a passé cette étape-là, si on veut. Donc, elle est vraiment rendue à l'étape où une analyse environnementale doit être faite par le ministère. Puis ensuite de ça, le ministre de l'Environnement va remettre sa recommandation, si vous voulez, au Conseil des ministres, qui lui devra prendre une décision finale.
Donc, vous nous parlez de ce tracé, donc c'est le projet en fait qui s'intitule Northern, je l'ai sous les yeux, Northern England Clean Energy Connect, qui va permettre d'exporter de l'hydroélectricité québécoise en Nouvelle-Angleterre. Projet qui, si tout va bien, pourra être fonctionnel déjà en 2022. Côté États-Unis, les feux verts sont donnés. Côté québécois, on en est presque au niveau du ministre et du Conseil des ministres. Ça, c'est au niveau
Exact.
provincial. Au niveau fédéral, qu'est-ce qui se passe?
Ben, au niveau fédéral, il faut savoir que le processus d'évaluation fédérale s'applique puisque finalement, il s'agit d'une construction d'une infrastructure énergétique dite transfrontalière.
Oui.
Donc, de la même façon que les projets de pipeline qui traversent plusieurs provinces, par exemple, sont soumis à ce genre de processus d'évaluation-là, les infrastructures électriques également, donc c'est peut-être moins connu, mais c'est quand même une réalité, les infrastructures électriques qui soit traversent plusieurs provinces ou qui finalement traversent et le Canada et les États-Unis sont dits donc transfrontaliers et doivent passer un processus d'évaluation fédéral.
Oui.
Alors, la manière dont ça fonctionne Je vous dirai à quelques détails près là, pour les auditeurs. Ça fonctionne à peu près de la même façon que les évaluations provinciales. Il y a quand même des différences, on va dire, d'ordre juridique, là, mais je ne suis pas avocat, donc je ne me prononcerai pas là-dessus.
Non, non, non.
Mais il y a une période, si vous voulez, d'audience où est-ce que finalement les différentes parties prenantes du projet ont l'opportunité de faire valoir leur opinion ou leur doléance, si vous voulez, à la commission. Donc on appelle ça une période de commentaires. Et d'ailleurs, la période de commentaires a été prolongée jusqu'au 11 janvier dernier, pardon, puisqu'avant Noël, il y a une communauté autochtone, Huron-Wendat, qui a demandé justement de pouvoir remettre. De pouvoir finalement remettre une doléance ou de pouvoir donner son opinion sur le projet alors qu'ils n'avaient toujours pas eu l'opportunité de le faire. Donc,
D'accord.
si vous voulez, la prolongation de la période de commentaires leur a été accordée et ils ont pu remettre finalement de la documentation, des questions, des commentaires à la Régie de l'énergie puis à Hydro-Québec. Donc, ensuite de ça, la période s'est terminée donc le 11 janvier et au cours des prochaines semaines, des prochains mois, ce qui va se passer, c'est que la commission, finalement, qui est chargée d'évaluer le projet, va envoyer une mise à jour procédurale. Ça, c'est le jargon utilisé par la Régie de l'énergie que je vous dis là.
En tout
Alors,
cas, vous
grosso
savez quoi,
modo.
Jean-François? Je ne vais jamais moi-même me mêler d'exporter de l'hydroélectricité, c'est trop compliqué. Je reste à la radio.
Il faut des gens qui s'occupent de ça, c'est
Effectivement.
quand même essentiel.
Effectivement.
Mais grosso modo, ce que la régie va envoyer, c'est un calendrier qui va présenter si vous voulez, les étapes qui restent au processus d'évaluation. Donc, ils vont présenter ça à Hydro-Québec, à l'ensemble des parties prenantes. Et ensuite de ça, ils vont devoir se rassembler, discuter, puis prendre une décision par rapport au projet. Donc, ils vont devoir décider à savoir est-ce qu'ils l'approuvent, est-ce qu'ils demandent certaines modifications, autrement dit, est-ce qu'ils l'approuvent, mais avec certaines conditions, ou est-ce qu'ils le refusent. Il faut savoir que depuis l'arrivée au pouvoir de Justin Trudeau, il a modifié la loi. D'ailleurs, en fait, autrefois, la Régie de l'énergie du Canada s'appelait l'Office national de l'énergie. Donc, non seulement le nom a changé, mais sa mission a été revue quand même substantiellement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que alors que Stephen Harper avait fait des changements à la loi qui permettaient au gouvernement de renverser des décisions de l'Office national de l'énergie, ben, le parti libéral de Justin Trudeau, finalement, a modifié la loi, ce qui fait en sorte que si jamais le projet, en fait, la commission avait une opinion défavorable du projet d'exportation d'Hydro-Québec d'électricité, le gouvernement fédéral pourrait pas infirmer la décision de la régie. Donc, c'est un changement qui est quand même important.
Le politique devient second là-dedans, alors.
Exactement. C'est-à-dire qu'autrefois, la régie ou l'Office national de l'énergie avait un rôle qui était quasi judiciaire, là, en quelque sorte. On se retrouvait quasiment devant un juge qui avait un pouvoir qui était vraiment distinct de la sphère politique. Avec Stephen Harper, les changements qu'il avait opérés à l'Office national de l'énergie faisaient en sorte que finalement, si vous voulez, l'Office national de l'énergie avait un rôle qui était rendu. On peut pas dire, on, je veux pas dire quasi consultatif, mais il y avait un rôle qui était pas mal moins important dans le processus décisionnel, puisque le gouvernement avait le pouvoir de modifier favorablement ou défavorablement une décision prise par l'Office ou rendue par l'Office. Donc, autrement dit, il a beaucoup politisé, si vous voulez, la prise de
Je vois,
décision en ce qui a trait au projet énergétique. Et il y a nombre de si vous voulez, de dirigeants ou de ouais, c'est ça, ben c'est ça, de dirigeants ou de membres d'exécutifs d'entreprises énergétiques qui s'en étaient plaints, hein. Alors,
Je
je dois vous
comprends.
dire, bon.
Jean-François Thibault, il nous reste une petite minute pour clore ce sujet du New England Clean Energy Connect qui est censé connecter l'hydroélectricité québécoise vers la Nouvelle-Angleterre. On parle de 1200 mégawatts d'électricité. Ça me semble énorme et ça doit l'être, j'imagine. En 30 secondes, on a besoin de bonnes nouvelles comme ça au Québec, non, ces temps-ci?
Ben, c'est certain qu'avec la pandémie, puis avec tout l'ensemble des impacts, si vous voulez, que ça a sur l'économie, les finances publiques, c'est certain que j'aurais pu, par exemple, vous parler aujourd'hui de Keystone XL, j'aurais pu vous parler de toutes sortes d'autres nouvelles qui sont moins reluisantes là, pour le Canada.
Celle-ci est une bonne, hein?
En
10 secondes.
Et voilà, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de la choisir. C'est un projet qui va permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle planétaire, mais également Super. D'enrichir les Québécois et les consommateurs d'énergie américains. Donc, c'est
Jean-François Thibault, ingénieur et commentateur de l'actualité du secteur énergétique. Merci beaucoup. On vous retrouve dans un petit mois, je pense. À bientôt.
À bientôt.
Et voilà, c'est la fin de l'émission. Demain, savons-nous assumer une crise au Québec et la semaine politique québécoise et canadienne à la régie Daniel Fortin. Ici Jean-Philippe Trottier, je vous dis à demain.